Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue au Mardi de la mémoire et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir Antoine Michelan. Bonjour Antoine.
Bonjour Anne.
Merci d'être ici à Radio Courtoisie. Je précise aux auditeurs que vous êtes journaliste, que vous êtes ancien grand reporter et chef de service royauté au magazine Point de Vue, où vous avez fait quasiment l'essentiel de votre carrière.
Oui, plus de 33 ans.
Ah oui, c'est ça, oui. Et à Point de Vue, vous avez connu Dominique Paoli quand elle était le chef du service histoire, non ?
Absolument, mais moi je suis arrivé en fait au moment où elle partait. Donc on s'est croisés à Point de Vue, mais on s'est revus ensuite.
C'est ça.
Notamment ici.
Exactement. Et Antoine, vous publiez aux éditions du Rocher un livre passionnant qui s'appelle « Opération Duc de Windsor, le prince, les nazis et les espions, les dossiers secrets enfin révélés », donc comme je l'ai dit, aux éditions du Rocher. Alors un énorme travail, plus de 400 pages, d'un livre qui se lit extrêmement facilement et qui rentre dans les arcanes à la fois politiques, historiques et psychologiques d'un homme et d'un couple, parce qu'on peut dire que le duc de Windsor est difficilement dissociable de son épouse, même si ce sont deux personnalités à la fois différentes et semblables dans la complexité de leurs êtres. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, avant que nous rentrions dans quelque chose de plus didactique et peut-être de plus chronologique, c'est de m'arrêter sur la dernière phrase de votre sous-titre, « Les dossiers secrets enfin révélés ». De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de beaucoup de dossiers qui étaient classifiés pendant très longtemps et qui ont commencé à être peu à peu déclassifiés outre-Manche après la mort des derniers protagonistes, c'est-à-dire on va dire la reine-mère, donc la veuve de George VI en 2002. Donc après sa mort, quelques dossiers petit à petit ont été déclassifiés. Concernant ce qu'on peut appeler une des affaires d'espionnage les plus incroyables et les plus longues même du XXe siècle. Et ça a continué ensuite. Et il y a encore des choses qui sont pour l'instant classifiées, notamment aux États-Unis, qui ne seront pas déclassifiées avant 2070. Il y a également des dossiers qui ont été fort opportunément perdus, que ce soit en Grande-Bretagne ou ailleurs en Europe, notamment en Espagne, puisqu'il y a également un passage du duchesse de Windsor en Espagne en 1940, qui donne lieu à pas mal de manipulations. Et puis, il y a des choses que j'ai pu retrouver aussi, qui n'ont, à ma connaissance, pas été utilisées jusqu'à présent, autrement que dans des publications universitaires ou des autopublications, qui étaient assez éclairantes quant aux agissements déjà du Windsor et quant également aux opérations d'espionnage dont il a fait l'objet.
Alors le mot évidemment opération Duc de Windsor sonne très british et très James Bondesque presque, et puis on sait peut-être parce que les événements récents de la mort de la reine Elisabeth, de son enterrement, du couronnement de son fils et puis la série The Crown nous ont appris que tout avait un code en Angleterre, donc tout s'appelle opération quelque chose, là au moins opération Duc de Windsor c'est clair, on comprend de qui il s'agit.
Absolument.
Et donc, ce personnage, est-ce qu'on peut peut-être donner quelques noms clés, quelques dates ? Qui est-il, son père ? Comment s'inscrit-il dans cette famille royale ? Parce que peut-être que certains de nos auditeurs n'ont pas une connaissance très historique et du personnage.
Alors, avant d'être duc de Windsor, il est d'abord prince de Galles, c'est-à-dire qu'il est l'héritier du trône. À la différence de son père, il est né pour régner. George V est un roi par accident, parce que son frère aîné est mort de façon prématurée, et donc il est monté sur le trône avec presque un sentiment d'illégitimité qu'il ressentira toute sa vie d'ailleurs. Mais son fils est vraiment celui qui doit régner. C'est donc une pièce maîtresse de la famille royale, et il ne peut pas se permettre de décevoir, en quelque sorte. Mais malheureusement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il est une antithèse parfaite presque de son père, qui est quelqu'un de très solide, de très soucieux de bien faire, de très attaché à montrer justement qu'il est à la place où il doit être, même si lui-même n'en a pas toujours le sentiment. Et, Il va au contraire être une sorte de feu follet, d'éternel adolescent, de personnage à la fois très charismatique, très populaire et volontiers également populiste, émaniant un petit peu les foules à son profit. Et puis surtout, il va y avoir une vision très différente entre le père et le fils du rôle de roi. C'est-à-dire que Georges V est un monarque constitutionnel, conscient de ses devoirs et beaucoup plus que de ses droits. Et son fils est l'inverse, c'est-à-dire que lui, il voudrait faire selon son bon plaisir, il se prend pour un monarque ou pour un futur monarque absolu, il n'a pas du tout conscience de ce que doit être un monarque constitutionnel. En plus, Georges V est très 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 soucieux de faire oublier les origines allemandes de la dynastie, après la Première Guerre mondiale, alors que son fils aîné dit lui-même qu'il n'a pas une goutte de sang qui ne soit allemand. Il est très germanophile, et ça va poser d'énormes problèmes, bien évidemment.
Alors, je vais donner quelques dates. Antoine Michelan, le personnage principal de votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Opération Duc de Windsor aux éditions du Rocher, Georges V. Donc, Georges V, pour nos auditeurs, c'est le petit-fils de la reine Victoria. Il y a juste un roi entre la reine Victoria et lui. Et c'est amusant parce qu'en préparant cette émission, je me suis dit quand même, le temps passe. Parce que lorsque on voit des dates de naissance au 19e, on commence à se rendre compte que c'est loin. Georges V est né en 1865. Il meurt en 1936. Donc c'est quand même un homme qui a une longue vie tout de même et qui traverse, quand on voit 1865-1936, on voit bien tout ce qu'il a traversé dans cette histoire du 19e et du début du 20e siècle. Et il est roi à la mort de son père Édouard VII, qui meurt en 1910. Donc Édouard VII étant lui-même le fils de la reine Victoria. Et ce Georges V, que certains auditeurs connaissent peut-être bien pour être le sosie de son cousin germain Nicolas II, ces deux hommes qui pouvaient échanger leurs uniformes et on pouvait se méprendre sur l'identité de l'un et de l'autre. C'est assez
troublant.
Alors on a tous dans nos familles des cousins germains qui se ressemblent plus que des frères. Mais là, évidemment, quand il s'agit de personnages publics, c'est plus frappant. Donc Georges V meurt en 1936 et lui succède donc son fils Édouard VIII qui lui-même est né en 1894. Donc c'est un personnage né à la fin du 19e siècle et il mourra en 1972. Alors Édouard VIII, il a toute une titulature, comme vous l'avez dit, mais il a aussi plein de prénoms. Et donc, il prend le titre de roi Édouard VIII, bien qu'il ne se prénomme pas Édouard. En tout cas, Édouard est évidemment son prénom, mais il n'est jamais appelé Édouard.
Alors, il n'est jamais appelé Édouard en famille, mais en dehors de la famille, il est appelé Édouard. En fait, il est appelé de son dernier prénom, qui est David. Tout le monde dans la famille l'appelle David, mais il va régner en effet sous son premier prénom, qui est un prénom de roi, qui est le prénom de son grand-père, Édouard VII. Et donc, il va lui être Édouard VIII et il va avoir un règne très court, puisque ça durera à peine plus de 10 mois.
Mmh. Et quand il était dans sa sphère amicale, ou bien justement son épouse, comment l'appelait-on ? L'appelait aussi David ?
Ah oui, d'accord. Absolument.
Et c'était vraiment le prénom...
Le prénom usuel, en fait, en famille, le prénom privé, on va dire.
D'accord. Ouais. Bon, après, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens, sinon, qui l'appelaient Édouard. On l'appelait Sire, Votre Altesse,
absolument,
Votre Altesse Royale.
C'est pour ça que son prénom usuel, finalement, c'est David, parce que, en effet, on l'appelait Sire ou Monsieur, après l'avoir appelé Sire.
Oui, bien sûr.
Ou,
oui.
Monseigneur, enfin, plutôt Your Royal Highness, quand il était prince héritier, et voilà.
Alors, votre ouvrage, Antoine Michelan, en fait, est divisé un peu en deux grandes parties, avant son abdication et après son abdication, avec une continuité qui est qu'il est un problème pour la famille royale et pour le pays, pour l'Angleterre, durant toute son existence. C'est quand même assez incroyable de se dire que cet être, de sa petite enfance jusqu'à sa mort, sera un souci.
Alors il va d'abord être un souci, un souci d'ailleurs légitime. On est tous soucieux de nos enfants, de leur devenir, de leur éducation, de les mettre sur la bonne voie. Donc il va d'abord être un souci effectivement pour son père, et il va devenir un problème et pour son père à la fin de sa vie, et surtout pour son gouvernement, ses gouvernements et son frère ensuite. Son frère qu'il admirait beaucoup, son frère dont il était très proche en âge, qui est le futur Georges VI, duc d'York, et qui lui-même n'était pas non plus destiné à régner comme son propre père. Ils étaient tous les deux ducs d'York, et ils n'étaient pas destinés, donc ils n'étaient pas aînés, ils n'étaient pas destinés à régner. Mais il est un souci, parce qu'il faut en effet construire un roi. C'est le travail d'une vie, en fait, parce que c'est une place bien particulière. Donc Georges V, qui lui-même se sent assez peu légitime, ne va pas, même s'il a du mal à manifester son affection, ne va pas épargner ses efforts pour former son fils. Donc il va en faire, comme le futur Georges VI, un officier de marine. Mais très vite, au désespoir d'ailleurs du futur Édouard VIII, il va l'orienter vers Eton et vers des études adaptées pour le préparer à son rôle de souverain, pour les connaissances politiques, pour les connaissances juridiques, etc. Et lui va s'ennuyer royalement, c'est le cas de le dire, à ces études-là. Donc il y a déjà une problématique. Et une autre problématique est celle de la santé, puisqu'il va attraper les oreillons à un moment assez critique, et que ça va être une affection sévère qui va arrêter son développement, qui va arrêter également sa puberté, qui va faire que ça sera toujours un éternel adolescent au physique, malheureusement pas seulement au physique, et qui aura des répercussions également nerveuses, certainement sur son caractère, et voilà. Et c'est un souci enfin, parce que il a des comportements assez erratiques à partir de l'adolescence, justement, et après cette maladie, mais c'est certainement quelque chose qui est plus ancien. Il veut absolument rester, justement, physiquement, une sorte d'éternel adolescent, donc rester très svelte. Il se contraint à des régimes alimentaires sévères, à du sport à outrance, avec presque un certain masochisme. Donc ça soucie son père, qui lui écrit d'ailleurs, il faut arrêter vos veilles, vos exercices excessifs, et vous mangiez, c'est maintenant que vous allez pouvoir grandir. Enfin, il se soucie vraiment de ce fils. Et on va passer du souci au problème progressivement, en fait.
Pardon de vous interrompre, Antoine Michelan, mais après on n'aura peut-être pas le temps d'y revenir. Oui. Et c'est peut-être très, très 21e siècle ma question, mais le rôle de sa mère on explique souvent les problèmes des fils par une mère possessive, abusive, la promesse de l'aube de Romain Gary, vous voyez.
Non, on en est très très loin. Sa mère est toute dévouée à son mari. Elle est là pour donner de l'éclat au règne, pour aider son mari à régner. Il est un petit peu son dieu vivant. Et donc, elle n'est pas très maternelle, mais avec aucun de ses enfants, hein, de toute façon. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne les aime pas. Mais tout comme Georges V, ils ont beaucoup de mal l'un et l'autre à faire passer leurs sentiments, même l'un envers l'autre, alors que c'est vraiment un couple très, très uni. Il ne va pas avoir une mère présente, bien au contraire.
D'accord. Et donc, elle, c'est Marie de Teck, hein ?
Absolument.
Cette femme très digne, très...
Très royale.
Très royale. Très et royale. Pourtant, elle n'est pas d'une famille princière. Hein
si, mais elle est d'une branche... princière allemande, hein, oui. mais morganatique.
C'est
donc,
ça.
En effet, elle est de petite principauté, si on peut dire.
Oui, bien sûr.
Mais elle est vraiment née pour le rôle. Et elle va beaucoup aider Georges V, d'ailleurs, qui se sent plus officier de marine que roi. Et elle va beaucoup le porter pour qu'il y ait un règne qui sera un assez beau règne, hein, finalement, parce qu'il traverse toute la Première Guerre mondiale. Il arrive à surmonter toutes les difficultés. Et a laissé finalement à son fils un moment critique, puisque Hitler est déjà au pouvoir depuis 3 ans, enfin depuis plus de 2 ans, laisser une monarchie en bon état, tout en étant très inquiet de la suite, à juste titre.
Alors moi, ce que j'ai découvert avec votre ouvrage, évidemment beaucoup de choses, parce que une connaissance historique de survol, hein, du sujet. Et d'ailleurs, je suis un petit peu surprise de voir que... pardon de dire ça, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de journalistes qui ne lisent pas les livres avant de faire leurs articles, ou qui se contentent d'une quatrième de couverture, mais j'étais un peu surprise de certaines recensions de votre ouvrage, où tout le monde dit que c'est extraordinaire, on apprend plein de choses, mais dans le résultat de l'article, on ne sait pas ce que les gens ont appris, parce que il ne semble pas que ce qu'on découvre vraiment soit totalement mis en avant. En fait, moi, j'avais quand même pas perçu l'inquiétude de Georges V si précoce à l'égard des prises de position de son fils. J'avais un peu l'impression que il y avait. Alors, vous montrez bien qu'il y a cette accélération en 35-36 parce ouais. qu'il y a la mort qui s'approche. Il y a aussi les événements qui s'accélèrent. Mais en fait, Georges V à une prise de conscience très précoce du grand problème à la fois psychologique et politique de son fils, et il le met sous surveillance avant que les choses ne s'accélèrent.
Alors, juste avant. Enfin, les choses sont déjà un petit peu accélérées, mais dès qu'il le réalise, c'est-à-dire tout début 1935, il convoque son premier ministre, Ramsay MacDonald, et à Sandringham, donc au moment de la trêve justement de Noël, dans sa résidence privée, et il lui demande en effet de faire surveiller son héritier. Le prétexte avancé, qui n'est pas totalement un prétexte, mais un parti quand même, est que justement, il a peur qu'on ne fasse chanter son fils, parce qu'il a eu la connaissance qu'une somme très très importante d'argent avait été dépensée en bijoux, l'équivalent quand même de 8 millions d'euros, ce qui est loin d'être négligeable. Et pour lui, ça ne peut être qu'un chantage. Donc, il voudrait savoir ce qui s'est passé, comment on le fait chanter, qui le fait chanter. Alors, honnêtement, il a une idée assez précise. Il sait que Wallis est la nouvelle maîtresse de son fils. Il le déplore, bien évidemment. Mais il voudrait savoir pourquoi il lui donne autant d'argent. Et surtout, c'est une manière de pousser les services à savoir ce que fait exactement... David, puisqu'il l'appelle David.
On voit au travers de votre ouvrage et toute cette histoire autour du duc de Windsor qu'il y a des personnages courageux quand même dans l'histoire. Hein. Il y a quelques fonctionnaires, très hauts fonctionnaires, très proches même du duc de Windsor, qui ont le courage d'alerter le roi, guillemets quand même, de trahir leur boss hein, en allant au super boss et en donnant et en livrant des documents parce qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment péril en la demeure.
Oui, même ils s'entendent avec le secrétaire privé de Georges V, Clive Wigram, pour préparer une remontrance, une grande remontrance, à l'endroit du futur Édouard VIII. Et quand on lit le brouillon de cette remontrance, c'est frappant. C'est-à-dire que c'est presque une mise en accusation. Vous ne faites pas votre devoir, vous prenez des initiatives contraires aux intérêts du gouvernement et de la couronne, vous êtes ingérable. Enfin, c'est vraiment une mise en accusation extrêmement sévère que le Premier ministre, en fait, le nouveau Premier ministre, Stanley Baldwin, s'apprête à lire au futur souverain au moment où justement son père meurt. Donc cette remontrance ne sera jamais livrée à celui qui est désormais roi, mais elle montre bien qu'il y avait une prise de conscience de tout l'entourage royal et du gouvernement du problème qui était en train de se mettre en place.
Alors, pardon peut-être de faire des analogies hasardeuses, mais évidemment on est en pleine affaire, alors Epstein ou Epstein, selon que, puisqu'on nous a expliqué que si on appuyait sur le Stein, c'était qu'on était antisémite, si on disait à peine Epstein, ça allait à peu près, si on disait Epstein, c'était mieux, bon voilà, donc je ne sais pas ce qu'il faut dire.
Bon, en français on dirait plutôt Epstein, je pense.
Oui, c'est ça, voilà. sans aucune connotation ni arrière-pensée, exactement. D'ailleurs, on nous a fait dire ça pendant des années. Mais est-ce que c'est parce que justement le duc d'York n'était que duc d'York que la famille royale a laissé passer tout ce qu'elle a laissé passer, sachant certainement les agissements d'Andrew, du prince Andrew, ou bien on n'est plus dans la même époque où pourtant les réseaux d'information devaient être encore plus alertés?
C'est très difficile à dire parce que pour le coup, là, on est encore avec des choses qui sont très très secrètes. Mais il semble que la reine, d'abord, ait posé les questions à son fils, qui était malheureusement son fils préféré, et qui lui ait juré que vraiment il était tout à fait innocent de tout ce dont on l'accusait. Est-ce que sur le volet financier, qui finalement sur le plan judiciaire est certainement le plus grave, la famille royale était au courant? C'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que Charles III avait prévenu et sa mère et le gouvernement au tout début des années 2000, quand il a été question de donner à Andrew ce poste de super ambassadeur des affaires économiques à l'international, qu'il fallait surtout pas donner ce poste à son frère, que c'était la meilleure façon d'avoir un problème avec l'argent et avec les filles, comme il l'a dit très crûment à sa mère, et simplement il n'a pas été entendu. Donc il connaissait son frère, il connaissait ses points faibles. Après, est-ce qu'il y avait des informations précises, c'est difficile à dire. C'est pas, c'est, je pense que la reine a voulu croire que son fils était innocent. Je pense que Charles était très inquiet de la réalité des choses. Est-ce qu'il en était totalement informé? Je pense qu'il aurait fait pression davantage sur sa mère s'il était totalement informé pour qu'il soit écarté plus vite, même si la reine l'a écarté, hein, de fait, avant de mourir. Hein.
Oui, bien sûr, mais c'est
De la vie
vrai qu'il
officielle.
y a quand même une analogie. De toute façon, les affaires, c'est toujours les mêmes sujets, hein, comme vous l'avez dit. C'est l'argent, c'est des informations quand même que l'on donne de.
C'est comme ça qu'il a eu l'argent, c'est-à-dire qu'il a fait, c'est, il a fait des, il a récupéré des informations confidentielles du gouvernement en tant que justement chargé de faciliter les investissements à l'étranger, etc. Avec ce poste de super ambassadeur des affaires économiques, pour les transmettre à des gens qui le rémunéraient pour ça finalement, hein, même si c'était pas une rémunération forcément directe, mais enfin. Comment a-t-il pu acheter son chalet en Suisse si ce n'est grâce à des banquiers reconnaissants? Là, je ne parle même pas de l'affaire Epstein, hein, il y a eu
Oui, bien sûr.
d'autres cas. Donc là, en effet, ça pose un énorme problème. Et là, normalement, si l'enquête va à son terme et si sa culpabilité est prouvée, bah, il doit aller en prison.
Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez les Mardis de la mémoire, Anne Colin au micro. J'ai le plaisir de recevoir Antoine Michelan qui nous parle du duc de Windsor à l'occasion de la publication d'un ouvrage passionnant. Opération Duc de Windsor, le prince, les nazis et les espions, les dossiers secrets enfin révélés aux éditions du Rocher. Notre ami Édouard, le futur Édouard VIII, qui n'est encore que prince de Galles dans les années qui voient l'arrivée de tout ce que l'on connaît, d'Hitler et du national-socialisme, va finalement s'inscrire dans un mouvement qui est celui que l'on voit dans le film dont tout le monde parle actuellement, Les rayons et les ombres, dans lequel Jean Dujardin endosse le rôle d'un patron de presse, Jean Luchaire. Ces hommes traumatisés quand même par la Première Guerre mondiale, qui n'ont pas envie, pour des raisons diverses, de voir un nouveau conflit éclater. Et là, le prince de Galles se trouve, vous l'avez rappelé déjà, dans une situation qui l'incline à s'intéresser aux Allemands, c'est qu'il est totalement germanophile. Voire totalement allemand dans ses veines.
Absolument, il a du sang, il n'a que du sang allemand. Mais il oublie justement que le principe d'un prince et d'un souverain est d'être l'incarnation de la nation. Donc de la nation qu'il a épousée en étant souverain et en étant de cette famille royale. C'est là qu'il est complètement à côté de la plaque. De même que lorsqu'il veut en effet s'inscrire dans certain pacifisme, il oublie qu'il doit être l'image, l'incarnation là aussi, des décisions de son gouvernement, et qu'il n'est pas un homme politique, qu'il n'a pas de politique ni d'élan politique à donner, mais il a à fédérer autour de lui et non pas à diviser. Donc il doit suivre ce que donne le gouvernement et pas autre chose. Et ça, il l'oublie, et il a l'impression qu'il est un de ces anciens combattants qui, en effet, veulent absolument la paix à tout prix, et quitte à pactiser avec Hitler et à renverser les alliances, même, pourquoi pas. Il a en cela une sorte de vie rêvée, parce que même si c'est certainement, même sans aucun doute, un homme courageux, hein, physiquement, il a un courage physique certain, même s'il a tout fait pour aller se battre en première ligne pendant la Première Guerre mondiale, il n'a jamais pu le faire. Donc c'est presque un rôle qu'il endosse, celui de l'ancien combattant, pour compenser en sorte une frustration. Mais je pense qu'il fait ça très sincèrement, mais avec une certaine inconscience.
D'ailleurs amusant, parce que j'ai vu que lorsqu'il s'installe après la guerre dans ce qui deviendra la Villa Windsor, à l'hôtel de Boulogne, à Paris, l'adresse a changé, mais lorsqu'il s'installe, l'adresse est un truc sur les anciens combattants, pour la mémoire des anciens combattants. Le rond-point a un nom qui m'a amusée, parce qu'effectivement, on voit... Il a peu d'occasion de jalouser son frère. On sent qu'il y a une véritable entente fraternelle, sincère, entre les deux. Mais on sent quand même qu'il envie son frère qui a pu, lui, participer à la guerre, qui était sur un bateau, qui a été à des vraies batailles.
Qui était au feu pendant la bataille de l'Islande,
voilà,
absolument.
Vrai poste de commandement. Donc... effectivement, hein, ça doit être difficile, hein, pour un homme.
Oui, il y a une frustration qui est réelle, là, je pense, absolument. Mais du coup, il se fait le porte-parole de tous ces anciens combattants pacifistes, et ça pose problème, parce que ce n'est pas vraiment la politique qui est suivie, même si une partie du gouvernement, notamment avec Chamberlain, va vouloir également l'apaisement très très longtemps. Mais il prend des initiatives qu'il n'a pas à prendre.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
Chers amis de Radio Courtoisie, vous écoutez Les Mardis de la Mémoire. Je reçois Antoine Michelan, journaliste, ancien grand reporter à Point de Vue et responsable des pages Royauté, et qui publie aux éditions du Rocher « Opération Duc de Windsor, le prince, les nazis et les espions, les dossiers secrets enfin révélés ». Je m'aperçois, quand on est déjà à la césure de l'émission, qu'il ne nous reste qu'une demi-heure. Je pense que votre livre, cher Antoine, nécessiterait plusieurs heures d'émission, mais le but, c'est d'inciter nos auditeurs à le lire, et donc on va essayer d'aller à des points essentiels. Et évidemment, le point essentiel dans l'affaire du duc de Windsor, c'est cette relation très complexe avec ce personnage éminemment mystérieux qu'est Wally Simpson, dont il faudrait quand même qu'on la décrive quelque peu.
Alors, il y a la légende dorée, si je puis dire, qu'ils ont tous les deux contribué à installer après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont écrit leurs autobiographies respectives, de cette histoire d'amour qui a obligé à l'abdication. On est assez loin de la réalité avec cette légende dorée qui a été également la raison invoquée pour l'abdication en 1936. Le duc de Windsor est obsédé par Wallis. C'est vraiment, on ne peut pas parler d'amour, on peut parler d'obsession réellement, il a besoin d'elle, ils ont des relations qui sont assez sadomasochistes, elle est extrêmement dure avec lui, mais on a l'impression qu'il a vraiment besoin de cette mère fouettarde en quelque sorte pour vivre.
Enfin,
fouettarde au sens propre en effet, il y a quelques indices de ça. Mais elle, de son côté... Elle brûle en quelque sorte ses derniers feux. C'est une jeune quadragénaire en 1934-35. C'est quand même un moment où les femmes ne misent plus sur leur séduction. Elle est quand même très très orgueilleuse d'avoir fait cette conquête. Elle est très heureuse également d'être introduite dans les cercles de la très haute aristocratie, parce que la famille royale ne la reçoit pas, bien évidemment. Donc, mais enfin, elle est quand même dans la haute société londonienne, notamment grâce à Édouard. Et puis, elle est très heureuse aussi de pouvoir vivre sur un grand pied grâce à lui, en se faisant offrir des cadeaux somptueux en bijoux, en ayant une rente, en ayant un appartement extrêmement luxueux, tout ça grâce à ses relations. Elle reste pendant ce temps-là mariée avec son second mari, Ernest Simpson, et ils sont plus ou moins complices d'ailleurs de cet état de fait. Ils l'appellent d'ailleurs entre eux le royal amant Peter Pan, preuve justement que c'est un éternel enfant et quelqu'un qui ne refuse d'entrer dans le monde des adultes. Et il s'installe donc comme ça une relation de dépendance de sa part à lui, sur le plan, on va dire, psychologique et physique aussi, et de sa part à elle une dépendance matérielle. Elle pense qu'elle va pouvoir continuer comme ça, elle ne veut absolument pas l'épouser, hein, absolument pas, c'est lui qui va, par son obsession, une fois qu'il est monté sur le trône, décider de l'épouser, décider d'en faire une reine, et qui va forcer justement au divorce avec un faux constat d'adultère, enfin beaucoup de choses qui sont fausses. Et si le gouvernement avait vraiment voulu empêcher simplement le mariage et ne pas renvoyer, si je puis dire, le roi, il aurait suffi de laisser la justice faire son travail et refuser le divorce.
Oui, c'est l'énorme intérêt de votre ouvrage, c'est que vous nous expliquez qu'en fait, le gouvernement britannique n'a qu'une obsession, alors eux aussi, oui, les voilà obsédés de quelque chose.
Se débarrasser de ce roi.
Absolument. Et c'est de le faire abdiquer. Absolument. Parce que je lis mes notes pour être sûre de ne pas en oublier, mais j'ai noté Édouard VIII aurait pu s'enfuir à l'étranger sans signer son abdication. C'est une énorme inquiétude de la part du gouvernement.
Alors, c'est une des raisons pour lesquelles, justement, à partir de novembre 1936, on passe à la vitesse supérieure pour ce qui est de l'espionnage. Et on le met sur écoute.
Oui, c'est ça.
On le met sur écoute. Il faut absolument savoir ce qu'il trame, s'il va abdiquer, s'il ne va pas abdiquer, s'il ne va pas s'enfuir justement, s'il ne va pas... Enfin, on est très inquiet. Donc on le met sur écoute, et ça c'est le MI5 qui s'en charge, hein, donc les services de contre-espionnage. Et en traînant d'ailleurs des pieds, parce que c'est quand même peu ordinaire, on est censé servir le roi, on est au service secret de Sa Majesté, et pas du Premier ministre normalement. Simplement, il est apparu au responsable du MI5 que l'intérêt supérieur de la nation était d'espionner le roi. Donc, ils l'ont fait, ils l'ont mis sur écoute pour savoir exactement ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, il y a eu une tentative de fuite à un moment donné.
Les deux avions sont prêts. D'autant que, pardon encore de vous interrompre, Antoine Michelan, mais comme on est en période de pré-guerre, c'est quelque chose, enfin, c'est pas quelque chose de classique, mais quand même, le roi Albert a quitté la Belgique pendant la Première Guerre mondiale, enfin, le roi Albert des Belges. Hein,
oui, bien sûr.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Pologne va se réfugier en Angleterre. Enfin,
oui, d'autres gouvernements et d'autres souverains qui vont se réfugier en Bretagne.
Donc, en tout cas, ça n'aurait pas été une cause d'abdication que de voir en temps de guerre un roi aller se réfugier.
Alors là, on n'était pas en temps de guerre.
Non, on n'était pas en temps de guerre, bien sûr. Alors, je prends mes différents points et puis on reviendra là-dessus. Mais donc, on voit qu'ils ont une peur. Qu'une peur, c'est qu'ils s'en aillent.
Ouais. Ils ont... qu'ils s'en aillent sans avoir signé son application.
Sans avoir signé son... Exactement. Ils ont très, très peur parce que Wallis, à plusieurs occasions, elle est tout à fait prête à saisir l'occasion de mettre fin à cette relation avec le duc de Windsor, qui est quand même un peu pesante pour elle. Donc, il ne faut surtout pas qu'elle arrête d'être avec lui. Ils ont peur
ils auraient pu être tranquilles, parce que de toute façon elle fait même une déclaration publique à un moment donné vers la fin de la crise d'abdication pour dire qu'elle est toute prête à se retirer, et là lui il appelle au téléphone, il la menace de se tuer si elle fait ça, et il lui dit également où que vous alliez je vous retrouverai. Donc elle est coincée, véritablement. Elle essaie de se dégager, désespérément. Elle essaie aussi, d'ailleurs, par parenthèse, de demander au gouvernement britannique une petite compensation financière pour son départ. Mais ce qui va quand même les faire un peu halluciner. Mais vraiment, elle essaie de se dégager.
Alors, il y a une troisième inquiétude aussi, pour troisième obstacle à l'abdication que craint le gouvernement britannique, et c'est que le divorce n'aboutisse pas, parce que et c'est vrai que là en fait ils font tout pour...
Ils vont faire pression sur la justice, ouais, absolument, parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, à juste titre, parce que la procédure a été entachée de nullité par bien des égards. C'est un faux constat d'adultère qui est fait entre Ernest Simpson et Et sa soi-disant maîtresse, qui viendra d'ailleurs sa femme, pour le coup, réellement, plus tard, mais qui est surtout une amie de Wallis à ce moment-là. Et voilà, donc il y a des gens qui ont bien conscience de ça, qui ont bien conscience que le roi est derrière ça, et il suffirait d'appliquer la loi, et le divorce n'aurait pas lieu. Donc, en effet, il y a une pression du gouvernement sur la justice pour faire en sorte que le divorce... Et bien lieu.
Et puis alors, il y a un dernier obstacle et qui n'est pas de taille, enfin, ou qui est de taille au contraire, c'est qu'il est fort possible que le frère du roi, le futur George VI, refuse le trône. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors non, c'est-à-dire que c'est une crainte.
C'est ça, c'est une crainte.
C'est une crainte, c'est pas une possibilité, parce que là, il a trop le sens du devoir, comme son père d'ailleurs. Il se ressent beaucoup, George V et George VI, à certains égards. C'est une crainte de Downing Street, de Baldwin et de tout le gouvernement. Parce qu'on est quand même dans un schisme majeur, c'est-à-dire que, et à l'international, les choses sont compliquées, et on a un roi qui meurt, et il y en a un deuxième qui va s'en aller. Ou qui menacent de s'en aller, on ne sait pas encore à ce moment-là. Donc ils sont vraiment, ok, on a réussi, le roi s'en va, qu'est-ce qu'on fait ? Tout ça, on est dans des choses qui ne sont absolument pas prévues par les règles monarchiques. Les rares fois où il y a eu des abdications dans le passé, ça a été, au sens propre, l'épée sur le ventre, et comme par hasard, les souverains n'ont pas beaucoup survécu à leur abdication. Mais là, on remonte dans des temps très très lointains. Donc il n'est pas question de tuer le roi, même si par hasard un attentat avait eu lieu avec succès, on n'aurait pas été mécontents. Ce qui s'est passé en juillet 36 d'ailleurs. Hein. Mais il faut quand même s'en débarrasser. Donc on est vraiment sur un terrain très, très instable. Ils savent, parce qu'ils ont mis sur écoute, que George VI, même s'il ne se dérobera pas, est tétanisé à l'idée de succéder à son frère, parce qu'il n'a pas été préparé pour le coup, parce qu'il est très timide, parce que c'est ce fameux roi bègue, mais qui va être également tout à fait héroïque et remarquable. Donc c'est panique à bord, on envisage tout et n'importe quoi, y compris de éventuellement faire succéder le duc de Kent. Mais bien évidemment, c'est la règle qui va s'appliquer. Et la règle, c'est que George VI, enfin, que le duc d'York devienne George VI et monte sur le trône.
Alors, il y a aussi des points que vous étudiez de façon très approfondie et qui sont des points qui reviennent régulièrement, mais sans qu'on sache véritablement ce qu'il y a à le mettre dessous. Et qui finalement donne à la duchesse de Windsor un rôle presque moindre que ce que l'on pourrait imaginer. En fait, elle n'est pas si nazie que ça, elle n'est pas si liée que ça à Ribbentrop, elle n'a jamais été sa maîtresse.
Ah non, jamais.
Mais en fait, c'est une femme qui a envie de jouir de tout dans la vie.
Pas uniquement, non. C'est également une grande vaniteuse, elle le sait d'ailleurs, elle connaît cette faiblesse-là. Donc il suffit qu'on lui dise non pour qu'elle ait envie que ce soit oui.
Donc quand on veut... Ça, c'est très puéril aussi.
C'est assez puéril, mais elle fait ça avec une volonté farouche. C'est-à-dire et elle y met des moyens, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la famille royale la repousse, elle va vouloir se venger, en quelque sorte. Elle ne voulait pas du tout entrer dans la famille royale. Elle est très, très vaniteuse, et donc ça va lui faire faire des bêtises. Elle en a conscience elle-même. Hein. La différence de son futur mari, elle est assez lucide sur elle-même et sur ses faiblesses et sur ses failles. Donc, mais elle va quand même, en effet, faire beaucoup de choses par vanité. C'est pas une femme politique, c'est une femme qui veut avoir de l'influence, qui veut être sur le devant de la scène, qui veut régner sur son ménage, qui veut être admirée. Voilà, c'est ça qu'elle veut. Après, quand Ribbentrop lui explique que ce serait très très bien si on se rapprochait de l'Allemagne, etc., elle va dire mais je m'en occupe personnellement, et elle va conforter Édouard dans ce sens-là, non pas parce qu'elle est d'accord avec les nazis, mais parce que ça montre qu'elle a du pouvoir sur lui, c'est tout.
Elle n'aura jamais d'enfant, elle n'a eu d'enfant avec aucun. Et elle, on sait si elle était stérile.
Il y a beaucoup d'hypothèses, notamment même une thèse qui voudrait qu'elle soit hermaphrodite, donc stérile. Et ce n'est pas impossible du tout. Après, ça reste par définition des hypothèses. Mais en tout cas, en effet, elle n'a pas eu d'enfant, alors que d'autres de ses maris, premier mari, je crois, a eu des enfants. Donc la stérilité vient certainement d'elle. Elle vient tout aussi certainement d'Edouard. tout aussi certainement d'Edouard, qui a eu justement donc les oreillers à un moment extrêmement critique et de façon vraiment virulente.
Alors, quelles sont les prises de position du duc de Windsor à l'égard de l'Allemagne qui vont, parce qu'il n'y a pas que des prises de position privées, il y a des prises de position publiques, il y a des déplacements qui vont, dans les années qui précèdent la mort du roi George V, rendre complètement hystérique le gouvernement britannique.
Alors, ce n'est pas juste vis-à-vis de l'Allemagne. Il se mêle également de la politique étrangère de la Grande-Bretagne par rapport à l'Abyssinie. Il fait savoir qu'il n'est pas du tout d'accord avec, avec l'idée de mettre des sanctions à, la, à l'Italie pour être entré en guerre contre l'Abyssinie. Il essaie de convaincre les anciens combattants britanniques de fraterniser avec les anciens combattants allemands. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui arrivent à contre-temps et surtout sans se concerter avec le gouvernement qui sont très embarrassants. Et puis, c'est une attitude générale de toute façon. Il est vraiment décidé à agir par lui-même. Il fait ce qu'il appelle lui-même des coups démocratiques, ce qui pour un souverain est assez étonnant. Non pas que ça, il a juste à être souverain et non pas à faire des coups. Il n'est pas là pour être élu, puisqu'il est déjà d'une certaine façon l'élu. Donc il va aller voir les mineurs au Pays de Galles quand il y a des grèves, etc. Il va beaucoup jouer de sa popularité pour essayer de peser, en fait. Donc on peut dire qu'il est vraiment assez, assez populiste et dangereux sur ce plan-là, parce qu'il peut mettre dans l'embarras son gouvernement sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment très embarrassant.
Mais puisqu'il était roi, même si on est dans une monarchie constitutionnelle, il aurait pu, puisque Wallis a divorcé, il aurait pu l'épouser et il aurait pu s'imposer, obliger le gouvernement d'accepter qu'il reste.
Non, c'était non. Très compliqué. C'est-à-dire que de toute façon, le gouvernement, à un moment donné, a mis sa démission dans la balance. Le gouvernement a dit à un moment donné que, si vous voulez absolument l'épouser, sachez que nous allons démissionner. Et bonne chance pour essayer de trouver quelqu'un qui veut bien former un gouvernement avec vous comme souverain. Il n'aurait pas eu d'autre gouvernement. Qu'est-ce qu'il aurait eu comme solution ? Ça aurait été très très compliqué. Par ailleurs, il y a également l'opposition farouche de l'archevêque de Canterbury. Il n'a aucun sens.
Oui, ça
sens.
Vous révélez dans votre ouvrage les rendez-vous, sept rendez-vous entre le Premier ministre et l'archevêque de Canterbury.
Oui, plus le travail souterrain de l'archevêque de Canterbury, Cosmo Lang, qui va jusqu'à désinformer le directeur du Times pour faire en sorte qu'il y ait une campagne journalistique contre le roi, contre ce qu'il fait, contre ses manigances, etc. Donc vraiment, l'archevêque de Canterbury ne veut pas couronner, ne veut pas sacrer Édouard VIII, il n'en est pas question pour lui, parce qu'il a bien conscience que le roi n'a aucun sens du sacré, justement, qu'il n'a aucune spiritualité. On ne demande même pas d'être très croyant, mais juste de savoir quel est son rôle, en fait, en tant que chef d'église anglicane. Et donc, là aussi, c'est une impossibilité majeure, finalement. Donc, il n'est pas possible de le garder comme roi. Lui, ce qu'il aurait pu faire, s'il avait joué la montre, se faire couronner malgré tout, sans être marié, et ensuite essayer de l'épouser. Il n'a pas souhaité le faire, il n'a pas eu les nerfs pour cela, et tant mieux, je pense, pour la Grande-Bretagne.
Alors, je rappelle aux auditeurs que nous parlons du duc de Windsor avec Antoine Michelan, qui est journaliste, ancien grand reporter à Point de Vue, et qui publie aux éditions du Rocher « Opération duc de Windsor, le prince, les nazis et les espions, les dossiers secrets enfin révélés ». Alors, le duc de Windsor va donc devenir Édouard VIII dans un court intermède royal de quelques mois.
Le prince de Galles va devenir Édouard VIII.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Le duc de Windsor, non ?
Oui, pardon. Le prince de Galles va devenir Édouard VIII, exactement. Oui, parce que cette titulature de duc de Windsor, elle est créée pour lui ?
Elle est créée pour lui, absolument.
Oui, c'est quelque chose qui n'existait pas et qui n'existera plus.
Non, je ne pense pas, étant donné le titulaire et
bien sûr.
Son histoire, je ne pense pas que ça réexiste derrière lui.
Oui. Et le titre était également pour son épouse, en revanche, elle n'avait pas le prédicat d'Altesse Royale.
Absolument.
D'accord, donc ils étaient duc et duchesse de Windsor, lui, Altesse Royale.
Et pas elle.
Et pas elle, ouais, d'accord. Et donc il sera duc de Windsor après son abdication, effectivement. Et donc on voit qu'il ne cesse pas d'être un problème, bien au contraire, puisque jusqu'en 1953, vous
alors,
le dites,
en fait,
il est toujours surveillé.
Non, il est surtout surveillé jusqu'en 1945 et surtout jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis. Voilà, c'est là que on arrive au sommet de l'espionnage, de la surveillance. Alors là, de toute façon, on va mobiliser absolument tout le monde. Hein. À partir du moment où il quitte la Grande-Bretagne en 1936, en décembre 36, il est à nouveau surveillé, enfin, il est toujours surveillé plus exactement par la Special Branch de Scotland Yard qui est chargée de sa protection, mais qui est en fait l'espionne également. Il va être également surveillé parce qu'il sort de Grande-Bretagne, donc ça devient plus compliqué. Par toutes les représentations diplomatiques, à commencer par la française. Et puis, à partir de la guerre, il va y avoir le MI6 qui va s'en mêler également, c'est-à-dire le service d'espionnage britannique. Et quand il va quitter l'Europe pour devenir gouverneur des Bahamas, ça va être à nouveau son entourage immédiat qui va être chargé en partie de l'espionner. Le MI6 va fournir des rapports un petit peu exagérés d'ailleurs au FBI pour que lorsque le duc de Windsor va sur le territoire américain, il soit surveillé de près et même mis sur écoute par le FBI.
Et il reviendra en Angleterre combien de fois ?
À quel moment ? Après la guerre ?
Après la guerre, oui.
Après la guerre ?
Il vient pour le couronnement de la reine Elisabeth ?
Non. Non. Non, il n'est pas invité au couronnement.
D'accord.
Il n'est pas non plus invité au mariage de la reine Elisabeth. Quand elle est princesse héritière. Non, il reviendra pour les obsèques de sa mère, pour les obsèques, post-obsèques familiales en fait, et c'est tout.
D'accord. Et donc son périple...
De son frère, de George VI.
Ah oui, son périple va être un périple européen
Oui, un petit peu. À partir du moment où la guerre est finie, en fait, son pouvoir de nuisance a cessé. Parce qu'il va essayer jusqu'au bout, quand même, hein, d'empêcher les États-Unis d'entrer en guerre. Il veut tellement une paix séparée avec l'Allemagne qu'il va, on peut dire qu'il va trahir, à proprement parler. Il va contre ce que lui demande Churchill, il fait l'inverse absolu. Il use de son influence, il reçoit les hommes d'affaires américains qui viennent aux Bahamas, il donne une interview complètement catastrophique à Liberty Magazine pour dire qu'il ne faut pas que les Américains entrent en guerre. Enfin, il fait tout ce qu'il faut pour essayer de dissuader l'Amérique d'entrer en guerre et donc pour aider l'Allemagne, objectivement, à la gagner. Mmh. Donc ça, c'est quand même très problématique. Mais ça cesse à partir du moment où l'entrée en guerre des États-Unis est actée. Et d'ailleurs, il va quand même beaucoup baisser d'un ton à ce moment-là. Et après la guerre, il n'y a plus lieu de le surveiller à proprement parler. En revanche, il va falloir effacer les traces de ses agissements. Donc là, ça va être encore une fois les services secrets et le gouvernement qui va essayer à tout prix de récupérer tous les documents allemands qui sont tombés aux mains des alliés, enfin de récupérer, d'empêcher la publication des documents allemands tombés aux mains des alliés, qui montrent l'intention allemande de récupérer justement le duc de Windsor pour sa politique et pour arriver à une paix séparée avec la Grande-Bretagne. Mmh. Donc ça va durer en effet jusqu'au début des années 50.
Alors quel est le rôle justement ou la position de Churchill vous
elle est évolutive.
Oui, vous considérez que cette histoire de parti du roi, Churchill n'en a pas vraiment été à l'initiative
Ah si, il a été très actif, Churchill, absolument. Non, lui voulait absolument que Édouard VIII... reste sur le trône, d'abord parce que Churchill, c'est un légitimiste. Donc, c'était lui le roi, il voyait pas de raison, il trouvait qu'il y avait suffisamment de sujets de fragilisation de la Grande-Bretagne pour pas en rajouter un autre, ce qui peut s'entendre quand on connaît pas le fond du problème. Lui, il pensait connaître Édouard VIII. Il va garder d'ailleurs jusqu'au bout des relations amicales. Enfin, pendant la guerre, ça va être beaucoup plus tendu entre eux, mais après-guerre...
Et Antoine, ouais. Mais quel est son titre exact à Churchill dans les années 35-36?
Et c'est un politicien un petit peu en fin de carrière dans ces années-là. Il est député, il est un petit peu marginalisé dans le camp conservateur. C'est peut-être une des raisons d'ailleurs qui l'incite aussi à appuyer Édouard VIII contre Baldwin, qui n'est pas... Ils sont du même parti, mais ils n'ont pas franchement les mêmes intérêts ni les mêmes amitiés, on va dire. Donc il y a ça aussi qui joue. Puis il pense connaître Édouard VIII, il voit en lui quelqu'un de charismatique, ce qui est vrai, qui a une parole aisée, ce qui est vrai également, mais il ne connaît pas tous les dessous de l'affaire, toutes les fragilités du roi, toutes ses failles, cette germanophilie galopante, il n'en a pas conscience, c'est ça. Et quand il va le réaliser, il va lutter farouchement contre le pouvoir de nuisance, justement, de celui qui est devenu le duc de Windsor, quand lui-même va devenir Premier ministre, bien évidemment. Il aura connaissance de tous les dossiers à ce moment-là. Et après-guerre, il va vouloir... Alors, il n'est plus lui au pouvoir après-guerre, mais son successeur travailliste, puis lui, quand il reviendra au pouvoir, vont tout faire, en effet, pour effacer les traces de ce qu'a fait, le duc de Windsor et de ce que voulait faire l'Allemagne avec lui. Ils ne vont pas tellement le faire pour lui, ils vont surtout le faire pour préserver l'image de la famille royale, et pour préserver justement l'image de George VI, de la reine Elisabeth, puis ensuite de la très jeune Elisabeth II, qui ont été tout à fait exemplaires pendant la guerre, et qui ont justement fédéré derrière eux toute la Grande-Bretagne, qui ont donner du courage à tout le monde par leur courage à eux, justement, par le fait qu'ils sont restés sous les bombes, par les discours même de la toute jeune Elisabeth aux jeunes. Enfin, il y a vraiment eu une action psychologique extrêmement forte par la famille royale, et ça, il s'agit de le préserver et pas d'éviter de le salir par les agissements du duc de Windsor. Donc, ils essaient vraiment jusqu'au bout d'effacer ça.
Alors, pendant la guerre, le duc de Windsor est gouverneur des Bahamas, un endroit d'ailleurs où il se rase un peu, hein, il n'a pas l'air de beaucoup aimer.
Bon, il n'aime pas le climat et puis il trouve que c'est très ennuyeux en effet.
Oui. Ouais. Mais il a quand même des missions que le gouvernement britannique lui demande de faire, du fait de cette position en avant... pont vers l'Amérique ?
Non, en fait, ce que le gouvernement britannique souhaiterait, c'est qu'il ne fasse rien. Malheureusement, il fait. Donc, il va falloir faire avec, justement, et essayer de contrôler ses actions. Quand il va à Miami, c'est de façon assez malvenue. Il est très proche d'un certain Axel Wenner-Gren, qui est un milliardaire suédois assez proche lui-même de Göring, ce qui est quand même assez malvenu aussi, qu'on soupçonne fort d'agir au profit de l'Allemagne. Il se promène sur son yacht pour aller à Miami. Enfin, tout ça est absolument navrant, et il faudra vraiment une action extrêmement forte des Britanniques pour arriver à le détacher de ce Wenner-Gren, tardivement, mais quand même, ils vont y arriver. Et puis voilà, il va falloir aussi que Churchill sévisse très fort et en même temps avec diplomatie, ce qui lui est parfois difficile, pour réussir à endiguer la volonté d'Edouard, du duc de Windsor, d'inviter l'Amérique à ne pas entrer en guerre. Donc ça, vraiment, ça va être une lutte de tous les instants, jusque tard dans l'année 41, et puis après ça, ils vont réussir à le contrôler davantage. Je pense également qu'ils ont des informations qu'ils lui ont communiquées et qui vont le calmer, parce que les services de renseignement ont fait leur œuvre également. Et c'est pour ça aussi qu'après la guerre, il va finalement accepter son exil. Les services britanniques savent beaucoup de choses sur lui, et il va être obligé d'avoir une vie totalement déconnectée du réel, de façon définitive, d'une vie un petit peu vaine, de mondain... sans objet, qui va traîner de fête en fête jusqu'à la fin de ses jours.
Oui, c'est là où on le retrouve en France, parce qu'il a un bref Absolument. Passage en France après son abdication, puisqu'il se marie en France dans la propriété de Charles Bedeau.
Oui, Candé, au château de Candé.
Voilà, au château de Candé, où là, évidemment, les relations de cet homme doivent quand même beaucoup agiter, j'imagine, les services de renseignement et français et britanniques, parce que Bedeau, c'est quand même l'ami, pour le coup, de tous les grands dignitaires nazis.
Bah, c'est-à-dire que c'est l'ami de ses propres intérêts, comme c'est un homme d'affaires, c'est un chevalier d'industrie, c'est un aventurier en quelque sorte, Bedeau. Donc lui, il va renseigner l'Allemagne avec ce que lui dit son ami le duc de Windsor pour gagner les grâces du service du régime nazi et pour justement pouvoir ouvrir ses usines, pouvoir faire des bénéfices, etc. Je pense pas que c'est un grand politique, Bedeau, c'est vraiment un aventurier qui est prêt à tout pour faire fonctionner ses affaires.
Oui, mais on en parlait avant cette émission, c'est tout à fait le style de personnage qui devait être l'ami de Jean Luchaire. Quand on regarde le film Les rayons et les ombres, c'est exactement ce monde-là.
C'est probable, en effet.
Ce qui doit tourner, c'est les affaires. Il faut que, par confort et par intérêt,
Et si on même la guerre peut être une bonne opportunité, c'est parfait.
Oui, c'est ça. Mmh. Et donc après la guerre, les Windsor vont s'installer dans cet hôtel de Boulogne. Donc il deviendra la Villa Windsor à Boulogne.
Oui. Et, enfin, quelques temps après la guerre, pas tout de suite.
Et ils vont mener après grande vie, ils ont un moulin.
Oui, ça c'est leur résidence de week-end, un moulin de Gif sur Yvette, absolument, où ils voient leurs amis Mosley, justement, puisqu'ils étaient très proches. Ça aussi, ça faisait partie des problèmes quand il était prince héritier. Il était très proche d'Oswald Mosley, qui était le fondateur de la British Union of Fascists, ce qui ne plaisait pas beaucoup au gouvernement, bien évidemment.
Bien sûr, oui. Et dont l'épouse était une nièce ou cousine de Churchill. Hein, les deux familles... les deux familles sont parents.
Quelle épouse Mitford?
Oui, Mitford. Les Mitford étaient parents de Churchill.
J'ignorais. Mais...
Ah oui, si, je ne sais plus par quel biais, mais en tout cas, ils sont parents.
D'accord.
Le fils, Randolph, il s'appelle le
Churchill.
Fils de Churchill.
Oui.
Le fils de Churchill était un cousin, alors peut-être pas germain, hein, mais en tout cas des filles Mitford. Oui, c'est tout un monde. Hein. Jean d'Ormesson l'a très très bien romancé dans son livre « Tous les hommes en sont fous », mais c'est tout un monde parisien de l'après-guerre.
Oui.
Qui va... Et alors, le duc de Windsor meurt en 1972,
oui.
Toujours marié
toujours.
À la duchesse de Windsor.
Elle a pris une peine à vie.
Ah oui. Et elle le vivait vraiment comme ça?
Oui.
Ah oui.
Oui. Elle était prisonnière de cet homme, ouais.
Ah oui. Terrible,
et elle lui a fait payer très cher, hein, parce qu'elle a été d'une cruauté totale avec lui jusqu'au bout.
Ah oui, vous racontez dans votre livre des scènes d'humiliation où on sent que les gens qui étaient témoins en étaient malades. C'était
extrêmement malaise.
Ah, c'est vraiment terrible, hein, cette domination qu'elle...
dont lui avait besoin et elle, ça l'a soulagée d'être prisonnière de cet homme.
Ouais. Ah oui. Et donc elle lui survit.
Elle lui survit jusqu'en 86, je crois. Elle mourra à 90 ans, mais totalement Alzheimer.
Ah oui. Et donc ils n'ont pas d'enfants, pas d'héritiers.
Non.
Et donc des biens dilapidés ou vendus.
Oui, ou qui vont aller à l'Institut Pasteur, je crois, en partie. Mais oui, après les collections sont vendues. Il y a peut-être des choses qui sont retournées à la famille royale, c'est possible. Mm-hmm. Je vous avoue, je ne sais pas, ce n'était pas dans le...
Oui, bien sûr. Non, mais on voit parfois dans certaines expositions des bijoux.
Ben, elle a été couverte de bijoux de façon incroyable.
Oui. Merci beaucoup Antoine Michelin de cette heure passée en votre compagnie.
Merci à vous,
votre
merci
livre beaucoup. Opération Duc de Windsor ne parle pas que de bijoux, bien au contraire,
on est dans
des sujets extrêmement...
Alors c'est des bijoux révélateurs autrement.
extrêmement importants. Le prince, les nazis et les espions, les dossiers secrets enfin révélés aux éditions du Rocher. Merci beaucoup chers auditeurs et à mardi prochain. Au revoir.
Au revoir Anne, merci.
Vous venez d'entendre Les Mardis de la Mémoire, dirigé par Anne Collin, émission préenregistrée le 14 avril 2026 et diffusée pour la première fois le mardi 12 mai 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.